quelque chose d'assez étonnant, mais dans ce qu'il est, il est singulier parce qu'en fait il bouge dans tous les sens, il s'agite beaucoup, puis à l'heure il a parfois aussi lui-même ces scènes du comique de l'absurde, quand il dit « casse-toi pauvre con » ou il commence à engueuler ouais. quelqu'un qui se trouve sur une grue. Donc c'est un homme qui arrive à un moment perdre pied, en tout cas perdre les pédales. Donc aussi un mélange assez singulier, effectivement, oui.
Est-ce que l'humour ou l'humoriste a un rôle bien particulier par rapport justement aux hommes politiques ?
Oui, je crois qu'il a un rôle hygiénique, c'est-à-dire qu'il est capable de réconcilier un homme politique avec le commun des mortels. Et en fait, il donne une leçon d'humilité à l'homme politique, tout en donnant une leçon de compréhension aux personnes qui sont dirigées par ce même homme politique. Et en fait, je crois que la personne qui le fait le mieux, c'est Plantu. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si à la fois Pierre Croll et Plantu ont été nommés membres de l'Académie royale, c'est qu'ils sont porteurs eux-mêmes d'un message sous une forme, c'est vrai, un peu inattendue, mais très important d'un point de vue politique. Je crois d'ailleurs avoir lu un jour que Plantu était sans doute l'article le plus important du monde, c'est-à-dire que son message convoyait quelque chose de fondamental, beaucoup plus important que le premier titre.
Allez, on va faire un petit tour dans nos archives internes à la première, avec quand même... un des grands personnages qui a marqué pendant de nombreuses années la fréquence de la première.
Je m'appelle Robert Debar, j'habite 22 avenue des Combattants à Audergem, téléphone 735 96 09, préfixe 02. Je désire rester dans l'anonymat. Car le problème que je voudrais vous soumettre est très délicat. Je suis exhibitionniste. Je me produis dans les couloirs du métro tous les soirs à 20h45, sauf le dimanche à 15h, relâche lundi et jour férié. Je suis très sensible des bronches et le moindre courant d'air m'est fatal. Mettez un gilet de laine ou un damar que vous enroulerez jusqu'au-dessus des hanches et ne respirez pas par la bouche lorsque vous vous découvrez. Cher docteur Auger, votre émission est-elle réellement enregistrée en public ? Ou bien passez-vous des rires enregistrés pour souligner vos effets comiques ? L'émission se déroule en public. En voulez-vous une preuve ? Il me suffit de demander au public présent de se manifester. Applaudissez, s'il vous plaît. Mais... je vous vois venir. Vous allez me dire que j'ai très bien pu dire ça et demander ensuite au réalisateur de mettre des applaudissements enregistrés. Je ne vois dans ce cas qu'une solution. Demander au public de témoigner. Mesdames et messieurs, ici présents, voulez-vous répéter après moi ? Nous sommes
un vrai
public.
Alors
Convaincu.
Et enfin,
Elena. De Jeudogne. Bon, ça suffit comme ça. Vos gueules !
On passait régulièrement à des extraits du docteur G. Philippe Geluck dans le jeu d'Edico. Quel grand moment.
Ça me fait penser en tout cas à une scène du Monty Python où en fait la caméra est plantée devant une maison ouvrière tout à fait banale à Londres. Et en fait, ils font mention publiquement du fait que quelqu'un trompe sa femme dans la maison. Et apparemment, la personne est au courant parce qu'on voit les rideaux qui bougent un peu en disant que s'ils ne téléphonent pas pour donner une certaine somme d'argent, dans les 3 minutes, ils vont dévoiler son identité.
Le docteur G, est-ce que vous pensez que ce genre d'humour est adaptable dans d'autres pays ?
Bien sûr, oui, je crois que les gens ont besoin d'humour, les gens ont besoin de rire. Mais en fait, ce qui est extraordinaire avec l'humour, c'est qu'on part de rien, on part de l'imagination, on part d'un crayon, on part d'une feuille, de choses tout à fait accessibles, et qu'on fait quelque chose d'innovateur, de rupture. On confronte les personnes, et moi j'adore ça.
La première, 16h-17h30.
Sérieux délire.
Sérieux délire, Cédric Gauthier.
Nous sommes encore ensemble pendant une demi-heure pour cette deuxième partie d'émission Sérieux Délire avec notre invité Bruno Coleman, économiste, professeur d'université, ancien directeur de cabinet du ministre des Finances, ancien président de la Bourse de Bruxelles, homme qui aime rire et qui est très drôle. Cela se voit, cela se lit aussi dans son livre 50 nuances des gris, scènes grinçantes de la vie en entreprise, croqué par Bruno Coleman et Pierre Kroll, un livre publié aux éditions Renaissance du Livre. Il est sorti il y a quelques mois, mais on peut toujours évidemment le retrouver. Bruno Coleman, il y a un autre exercice qui est bien particulier à la radio sur les antennes de la première, c'est le café serré. Tous les matins, des humoristes, mais ils ne sont pas que humoristes, hein, je trouve, croquent un peu l'actualité. On a choisi un extrait pour vous, où évidemment, Thomas Gunzig parle d'économie.
Et l'information vraiment très très étrange que j'ai lu hier, c'est que jamais, jamais, et ce depuis sa création en 1931, jamais, je dis bien jamais, on a vendu autant de Porsche que cette année. Et ça c'est quand même vraiment étrange, c'est même super bizarre, parce que pourtant depuis 1931, le monde a quand même connu des années meilleures que celles que nous vivons, les Golden Sixties, où il suffisait de se baisser pour ramasser des Krugerrand par poignées entières, les années 80 et même les années 90, où vous pouviez mettre des patates en bourse et on vous rendait un cajot de chicot. Et peut-être même les années 2000, avant 2008, où le monde ressemblait à un Walibi par une belle journée de porte ouverte. Ça, c'était les belles années. Mais après ça, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, la crise des subprimes, la crise bancaire, la crise de la dette, des années qui sentent des pieds, des années où, on nous l'a dit et répété, c'est difficile pour tout le monde, facile pour personne, des années où on doit tous faire un effort, mettre du sien, être solidaire, se serrer la ceinture, manger son pain noir, sucer des cailloux, bref, succeler comme des clettes. Eh bien, figurez-vous que cette année 2012, cette année de récession, cette année où la croissance de l'économie est comparable à la vigueur sexuelle de mon grand-oncle le jour de ses funérailles, eh bien, on n'a jamais vendu autant de Porsche. Plus que dans les années 60, plus que dans les années 80 ou 90, et plus que dans les années 2000 avant 2008. Cette année, les amis, figurez-vous qu'on va vers les 130 000 Porsche vendus. 130 000 Porsche. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce sont les Saoudiens, ou bien ce sont les Chinois, ou bien ce sont tous les nouveaux riches des économies émergentes. Et c'est vrai, là aussi, on s'est payé des Porsche. Mais chez nous aussi, en Europe, plus 7%. Jamais autant de Porsche en Europe. Plus que quand on avait encore le pognon pour construire la Royale Belge ou la Société Générale. Jamais autant de Porsche que cette année. Les Porsche, ces belles bagnoles que, personnellement, je commanderais avec une finition, carrosserie noire basalte, tableau de bord en ronze noyer, jante platinium et ça j'y tiens, intérieur cuir rouge, Carrera. Ne dites pas que c'est du mauvais goût, c'est mon goût à moi. C'est comme ça que je la veux, ma Porsche, et qu'avec elle, je suis certain, pour emballer Cathy Imelen, ce serait in the pocket. Mais je m'égare, jamais autant de Porsche qu'en 2012. Et encore, selon les prévisions, ce n'est qu'un début. On prévoit la vente de 200 000 Porsche en 2020. 200 000 Porsche, nom d'un chien. Si l'on considère que chaque Porsche consomme à la grosse louche 19 litres au 100 et qu'on roule en moyenne 10 000 km par an, ça fait que ces 200 000 Porsche à la grosse louche sur l'espace d'une année vont consommer 380 millions de litres de carburant, 2 500 000 barils de pétrole, une journée entière de toute la production de pétrole du Koweït pour faire rouler à fond la caisse et bercée par le son mélodieux de 6 cylindres à plat disposé en porte-à-faux arrière de Mechelen à Düsseldorf, de Hanovre à Petit Anguin, de Riyad à Riyad, de Pékin à Xinyan, de Rome à Madrid, d'Athènes à Dubrovnik, toutes les 200 000 Porsche du monde. Eh bien, cette information étrange, nous apprenant que c'est au plus profond de la crise qu'on vend le plus de Porsche, m'a finalement mis de bonne humeur parce que, d'une certaine façon, ça m'a permis de me rendre compte que tous ces serrages de ceinture, tout ce pain noir qu'on va manger et tous ces cailloux qu'on va sucer, eh bien, ça n'aura pas été en vain. L'argent n'a pas disparu, il s'est juste un peu concentré et il aura permis à certains de faire vraiment la fiesta. Et moi, le bonheur des uns, je trouve ça formidable à condition de ne pas trop penser au malheur des autres, à demain.
Thomas Gunzig, le café serré, exercice particulier, je vous vois souriant et en même temps, je vous vois quand même interpellé.
Oui, je suis interpellé d'abord par l'absence de rigidité cadavérique du grand-oncle de Thomas Gunzig, puisqu'il faisait référence à sa vigueur sexuelle. Mais c'est vrai que c'est un peu troublant. Ceci étant, peut-être qu'on achète des Porsche pour s'enfuir un peu plus vite des autres en période de crise.
Ok, c'est une bonne réponse. L'exercice du café serré, vous en pensez quoi de manière générale ?
Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que j'en ai d'ailleurs moi-même plusieurs fois été le prédécesseur quand je passais à Matin Première. Mais c'est un exercice interpellant, compliqué et finalement qui doit se greffer sur une actualité très immédiate. Bert Kreutzmann, par exemple, m'avait fort frappé parce qu'il se concentrait, comme j'ai rarement vu quelqu'un se concentrer avant de lire son texte. Donc, ce n'est pas un exercice improvisé du tout, c'est un exercice de travail profond. Mais c'est important parce que ça libère, ça oxygène un peu l'actualité. Et puis, surtout, ça relativise un peu les propos de l'invité. Je me souviens d'ailleurs d'un jour où Christine Defraigne parlait tellement parce qu'elle répondait,
oui, oui.
Elle répondait que finalement le journal de 8h a commencé à 8h20. Et donc c'était assez drôle.
On a passé un extrait de ce café serré il y a quelques heures. Dans votre livre 50 nuances des gris, il y a un autre chapitre qui est consacré aux voitures de société. Et vous écrivez, les voitures de société, elles se commandent 18 mois à l'avance. Puis après vous ajoutez plein de choses.
Oui, j'ajoute plein de choses parce que c'est ce que j'appelle un long travail d'artilleur qui demande un réglage à la petite réglette, puisqu'en fait, à chaque statut, et les hommes aiment bien se ranger les uns par rapport aux autres, correspond une cylindrée ou correspond un certain nombre d'options. Et donc, la voiture de société, plus que la carte de visite, c'est important dans les entreprises. En fait, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit « je ne veux pas de voiture de société ». Donc, ça fait partie du rangement social et c'est ce qui m'interpelle le plus dans la vie des entreprises. Et c'est vrai que ça a changé maintenant, mais que dans les vieilles entreprises auparavant, les niveaux hiérarchiques, en fait, étaient une façon de s'enfermer et de se protéger des autres. L'entreprise était une pyramide. Aujourd'hui, l'entreprise est plus vaporeuse qu'elle ne pouvait l'être avant. Mais donc, la voiture de société, c'était en fait le reflet de tout ça.
Est-ce que le fait d'écrire ce livre en collaboration avec Pierre Kroll, ça vous permet d'avoir un vrai détachement par rapport à tout cela, de revoir ça de manière beaucoup plus posée?
Je ne crois pas que je suis tout à fait détaché parce que je travaille dans une banque et j'aime beaucoup mon travail. Mais en même temps, cette crise de 2008 a induit chez moi d'abord une tristesse des choses, une tristesse du temps qui passe, une tristesse de l'écroulement et en même temps une grande lucidité. C'est vrai que plusieurs fois pendant cette crise, je n'avais qu'une seule envie, c'est prendre un sac à dos et aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est-à-dire m'enfuir pour penser autre chose, parce que ce qui m'effrayait finalement, c'était que le symbole que l'homme a créé, à savoir la monnaie, commençait à domestiquer l'humain. Or, un symbole ne peut jamais domestiquer l'humain. Les forces sociales, les forces vives sont plus importantes que toutes les créations intellectuelles qu'on peut faire. Et donc, ça a induit chez moi, peut-être pas un détachement complet, mais peut-être un peu plus de liberté de pensée, un peu plus d'oxygénation que ce que j'avais pu traverser avant.
Je rappelle le titre de cet ouvrage, 50 nuances des gris. C'est paru aux éditions Renaissance du Livre. C'est très, très drôle, très, très grinçant et très, très noir. Parfois, Bruno Coleman, il nous reste encore quelques minutes pour poursuivre la découverte de ce qui vous fait rire ou moins rire et de continuer à gratouiller un petit peu la carapace derrière laquelle vous vous cachez. On fait cela juste après ceci.
Sérieux délire. La première. Sérieux délire.
Dernière ligne droite de notre émission Sérieux délire avec vous, Bruno Coleman. J'ai envie de vous demander quelque chose.
Dites-le.
Ça ne fait pas un économiste. J'ai envie que vous me racontiez une blague. Il y a déjà le silence. Mais c'est vrai, puisque Vado me disait qu'il fallait vous inviter à un souper parce que vous étiez à mourir de rire, j'ai envie que vous me racontiez une blague.
Je ne suis pas sûr que vous allez encore avoir beaucoup d'auditeurs après. Mais
on verra.
Mais
c'est le test ultime.
C'est la blague qui m'a le plus fait rire. Elle date d'il y a 20 ans. C'était un de mes mentors quand je travaillais à la BBL qui me l'a raconté. En fait, c'est l'histoire d'un anthropologue qui arrive dans le désert du Nouveau-Mexique. Et qui, après des jours et des jours de marche, tombe sur l'Indien qui n'a pas connu, qui n'a pas vu âme qui vive depuis très longtemps, en tout cas pas d'humain. Et il vient lui faire part d'une découverte extraordinaire, c'est qu'on a inventé un appareil pour pouvoir comprendre le langage des animaux. Et l'Indien est tout à fait interloqué, et puis l'anthropologue dit non, mais ça marche avec tous les animaux. Et puis d'abord il branche sur canard, et il commence à parler, à dialoguer avec le canard. Et le canard raconte effectivement tout ce qu'il fait tous les jours avec l'Indien, du matin au soir. Et donc l'Indien, confronté au fait que effectivement c'est correct, est stupéfait. Et puis il demande, mais est-ce que ça marche pour tous les animaux? Et il dit, oui, ça marche pour tous les animaux, ça marche aussi pour le chien. Et il appelle le chien. Et le chien commence à parler, effectivement, raconte tout ce qui se passe. Et puis après, il dit, ça marche pour tous les animaux? Et il dit, oui, ça marche pour les animaux. Et même la chèvre? Et il dit, non, chèvre mentir.
Merci Bruno Coleman. On va encore y penser. On va surtout aller boire un coup juste après. On va aller boire un coup juste après. Ah, je l'aime bien. Elle est un peu longue à retenir, mais je l'aime bien. On va écouter, si vous le voulez bien, toute autre chose maintenant. C'est Juan Dutremont. Il y avait aussi une particularité dans le jeu des dédicaux et de la semaine infernale. C'était d'enterrer toute une série de personnalités. Et comme votre livre